France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de notre relation au collectif, de nos choix individuels? Ça dit surtout, s'agissant des jeunes gens en tout cas, et c'est d'eux dont on va parler particulièrement, ça dit que les jeunes ne se replient pas sur eux-mêmes, le nez dans leur téléphone, ils sont en réalité très loin de cette caricature, ils sont visibles, les deux pieds dans la cité, il suffit de regarder les chiffres. Des 15 ans de service civique, plus de 800 000 jeunes en 15 ans, plus de demandes que de débouchés, et surtout dans les services publics, les aides à la personne et au plus près de leurs préoccupations. Première, la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Ce soir, nous allons aussi mêler une autre forme d'engagement et nous demander vers quoi on se tourne quand le contexte géopolitique s'emballe. Si justement s'engager, c'est aussi s'engager pour son pays, ce qui ne veut pas forcément dire prendre les armes et partir courir sur le front. Il y a là aussi mille manières de s'engager, mais les études nous montrent, c'est intéressant, une jeunesse en tout cas moins antimilitariste que ses aînés. La jeunesse aujourd'hui n'a pas connu de guerre du tout sur le territoire européen, pas même l'ex-Yougoslavie qui est la plus récente depuis l'Ukraine. La Russie et son hégémonie, tout ça c'est dans les livres d'histoire. Alors quand l'histoire, on la vit, quand elle s'emballe, que tout le monde tangue, est-ce qu'on a besoin de se sentir utile? Où qu'on aille d'ailleurs, vers quoi du coup va-t-on? L'engagement ce sont des actes, ce sont bien sûr aussi des valeurs et ce sera le sujet de notre discussion ce soir. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
David, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, David.
Alors voilà, donc moi je voulais témoigner puisque j'ai effectué un service civique en 2016 à la sortie de mon bac. Et ça a clairement changé tout mon avenir professionnel et du coup ma vie. J'ai fait un service civique à la Fédération des MJC de Normandie et donc j'intervenais dans les collèges, dans les lycées, etc. Et après, très vite, une fois fini le service civique, je me suis professionnalisé dans l'animation en passant en BPJEPS. Et à la suite de ça, j'ai obtenu mon premier poste en CDI à temps plein. Et il y a quelques mois, du coup, j'ai tout quitté et je suis parti faire un volontariat. Alors, ça s'appelle Corps Européen de Solidarité. J'ai vécu un an à Madrid en travaillant auprès d'enfants d'origine gitane et issus d'immigration à Madrid. Et je suis revenu et je retravaille dans l'animation.
Ce que ça veut dire, David, c'est qu'en sortant du bac, vous vouliez faire quelque chose de toute façon, vous engager d'une manière ou d'une autre, et puis les études, on verrait après. Ou est-ce que quand vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire, vous vous êtes dit « je vais faire un passage par un engagement et un service civique et puis on verra ». Est-ce que vous aviez une vague idée de ce que vous vouliez faire et c'est là que vous avez été faire votre service civique et c'est avéré que vous aviez raison? Ça commence comment?
Alors, en fait, moi, à la sortie de mon bac, de base, c'était un bac qui ne me plaisait pas tellement. Je me suis un peu laissé porter. Et pareil pour mes études supérieures. Et je voyais entre cette école de commerce arriver. Mmh. Et moi, le volontariat, c'est quelque chose qui a toujours baigné dans ma vie depuis tout petit. Ma mère était bénévole dans les associations. On l'accompagnait le dimanche. Et le service civique est apparu à moi pendant l'été, justement, parce que j'étais animateur pendant les vacances scolaires. Et là, j'ai dit, pourquoi pas moi? J'ai foncé sur le site, j'ai trouvé une œuvre, j'ai postulé une seule. Et ça a été la bonne, et je me suis dit, c'est pour moi, en fait.
Eh bien, écoutez, on est ravis pour vous, en tout cas, parce que visiblement, vous êtes un jeune homme épanoui, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup pour ce premier témoignage, pour discuter ensemble autour de la table. Dans le téléphone sonne, il y a Nadia Bellaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'Agence du service civique, il y a aussi Anne Muxel, bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice déléguée au CEVIPOF, vous êtes aussi directrice de recherche en sociologie. Vous avez écrit notamment Les Français sur le fil de l'engagement aux éditions de l'Aube, et aussi, ça nous intéresse également, vous avez participé l'année dernière à une étude sur les jeunes et la guerre pour le compte de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Nadia Bellaoui, on le met sous verre, David, c'est votre appartement témoin d'un service civique qui marche et surtout de ce à quoi ça sert en fait de s'engager dans cette voie-là.
Vous l'avez dit, en 15 ans, le service civique a concerné plus de 850 000 jeunes, c'est-à-dire l'équivalent d'une génération, qui décide de consacrer 6 à 12 mois, donc une mission longue, intensive, 24 heures par semaine au minimum, et indemnisée, à l'intérêt général, dans une association, dans un service public. David correspond à un des profils qui s'engage. En France, il est moins promu, moins encouragé par le système éducatif. En Allemagne, c'est beaucoup plus normal de faire une année de césure après le bac pour réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Et on gagne sans doute à progresser de ce point de vue-là. D'autant que les jeunes qui sortent du service civique, un an après, nous disent que avant tout, le service civique leur a apporter des compétences, d'ailleurs David le dit, qu'ils mobilisent dans leur orientation ou dans leur insertion professionnelle. Donc le service civique est utile à la société et aux jeunes.
Anne Muxel, quand on vous lit, et au fond ça rejoint tout à fait le témoignage de David et ce que nous dit Nadia Bellaoui, vous dites que qu'il y ait un désengagement vis-à-vis du politique, c'est clair, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on n'a pas envie de s'engager ailleurs, loin de là. Ça veut dire surtout qu'on a toujours besoin de sens et qu'on a toujours besoin de valeur. Et moi, j'ai l'impression, au fil des coups de fil qu'on va recevoir des gens là que je vois arriver sur le standard, que le mot qu'on place en première ligne, effectivement, c'est valeur.
Oui, valeur et aussi quête de sens, c'est-à-dire je crois que les jeunes générations dans ce monde complexe en transition ou gagné par l'incertitude où les jeunes d'une certaine façon ont vécu une série de crises concomitantes, pensons à la crise sanitaire,
bien
la pandémie
sûr,
qui a affecté tout particulièrement les jeunes, traversent finalement ces années de jeunesse avec sans doute une demande de sens, une demande de valeur particulièrement appuyée pour chercher finalement le chemin de leur insertion sociale et professionnelle dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que les vecteurs d'engagement se sont diversifiés. C'est vrai que le service civique a répondu, en tout cas, à une mission très importante qui est de permettre aux jeunes d'être reconnus comme utile à la société. Ça, je crois que c'est dans cette demande de sens, demande d'engagement plus ou moins diffuse que ressentent les jeunes dans un monde qui est de plus en plus difficile à décoder. Eh bien, je crois que l'idée qu'ils peuvent se sentir utile à la société est quelque chose de très important.
Et c'est intéressant parce que ça parle évidemment aussi d'épanouissement personnel, ça parle de ce qui leur tient à cœur. Je disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui vont vers le réchauffement climatique, etc. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Anne Muxel. À la fois, il y a donc cette appartenance personnelle à quelque chose, mais utile à la société. Ça veut dire coller aussi à la société, coller au monde qui nous entoure. Encore une fois, je disais qu'on était loin du repli. C'est important aussi de le dire. On est vraiment dans l'idée de coller à notre entourage, en fait, à ce qui fait société.
Oui, tout à fait. Je pense que les jeunes, pendant trop longtemps, et tout particulièrement dans notre pays du reste, ont été toujours appréhendés sous forme de problèmes, de problématiques. C'est vrai aussi que le temps de la jeunesse est considérablement allongé. Donc, il y a une quinzaine d'années au cours desquelles les jeunes, évidemment, se forment de plus en plus. La formation, l'éducation, aujourd'hui, a évidemment gagné du terrain dans le parcours d'entrée dans la vie adulte des jeunes, mais où ils vivent à la fois ce temps d'autonomie, tout en restant dépendants pour des raisons économiques de leurs parents, de la résidence de leurs parents. Et c'est vrai que dans cette période très longue, eh bien, s'impose en fait pour eux le besoin d'être considérés aussi parce qu'ils peuvent apporter à la société.
Est-ce qu'il y a un temps, Nadia Bellaoui ? Est-ce qu'il y a des périodes pour s'engager où on s'engage plus ? Anne Muxel a parlé de la période effectivement Covid qui avait été si compliquée, qui a écarté tout le monde d'un peu tout. On a ce besoin de retrouver la société. Est-ce qu'il y a eu un pic à ce moment-là ? Est-ce que les moments qui sont plus angoissants, comme ceux qu'on vit aujourd'hui, ou les moments qui nous font réfléchir sur d'autres choses, comme on le fait aujourd'hui, se voient dans les demandes de services civiques ou pas ? Et surtout dans le type de demande qu'il peut y avoir.
Ce qu'on voit, c'est que les missions de service civique mobilisent les jeunes sur les enjeux les plus difficiles, les plus délicats de la société. Par exemple, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire. Alors, quand on prend l'exemple, ça paraît évident que des jeunes un tout petit peu plus vieux ont une position singulière vis-à-vis des élèves, différente de l'enseignant, de l'institution, de l'infirmière, et on voit bien l'utilité que peut avoir un jeune en complément des autres acteurs de lutte contre le harcèlement, mais c'est typiquement une question très vive à laquelle on ne sait pas bien répondre et où on mobilise les jeunes. La transition écologique, le Premier ministre, d'une certaine manière, a reconnu, Gabriel Attal, en janvier 2024, que pour organiser une planification écologique dans ce pays, il fallait que les jeunes trouvent une place et par leur engagement. Sur la lutte contre la dépendance, on allait chercher les jeunes. Et effectivement, quand il y a eu la crise du Covid, 55 000 jeunes ont basculé, en service civique, ont basculé vers de la distribution de repas ou de masques pour prendre leur part dans la réponse à la crise.
Avant de retourner au standard, je voudrais vous poser la même question, Anne Muxel. Est-ce qu'il y a un temps, est-ce qu'il y a des périodes pour s'engager? Est-ce que ça se voit, en fait, dans les moments de pic, qui sont des moments difficiles, où on voit qu'il se passe quelque chose en termes d'engagement ou pas du tout?
Oui, les engagements effectivement varient selon les conjonctures sociales, politiques, historiques, voilà, qu'une génération peut traverser. Mais à l'échelle de la vie de l'individu, effectivement, ces engagements sont plus faciles, plus nombreux, je dirais, dans la première moitié des années de jeunesse, donc finalement chez les tout jeunes, puisque après, parmi les jeunes plus âgés, je dirais, entre 25 et 35 ans, il y a un peu d'autres échéances qui s'imposent et qui les rend moins disponibles. Après, on le sait, les engagements, et notamment les engagements associatifs, sont plus nombreux plutôt au moment de la retraite, à partir de 60 ans. Donc c'est vrai que là, on retrouve cette temporalité différenciée des engagements qui suit un petit peu le cycle biographique, le cycle de la vie.
Florian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Florian.
Oui, alors moi, j'ai effectué un service civique au Sénégal pendant 8 mois dans le cadre d'une coopération décentralisée. Donc j'étais en appui aux activités en lien avec l'environnement. Donc on a effectué des reboisements, des sensibilisations à la gestion des déchets, et on a également pu permettre des projets en lien avec la gouvernance locale, avec l'appui de France Volontaire également, qui m'a permis de rencontrer d'autres volontaires au Sénégal pendant ma mission qui a duré 8 mois.
Et bravo. Est-ce que ça a changé votre avenir, Florian, en fait? Est-ce que vous êtes orienté ensuite différemment? Est-ce que ça a aussi changé finalement votre regard sur la vie, sur le monde aussi, puisque vous avez été 8 mois au Sénégal?
Tout à fait. Alors j'ai vraiment pu apprendre à vivre déjà dans une autre culture, donc m'adapter à cette culture, que ça soit sur la langue, que ça soit sur tout ce qui est alimentaire. Et j'ai pu par la suite effectuer un volontariat de solidarité internationale avec France Volontaire, où je suis parti pendant 2 ans au Burkina Faso. Donc ça a été pour moi un tremplin dans ma carrière professionnelle.
Il y en a beaucoup, merci beaucoup Florian, il y en a beaucoup des jeunes qui disent, Nadia Bellaoui, que sans le service civique, au fond, ils seraient probablement ailleurs, pas forcément malheureux, mais probablement ailleurs.
C'est exactement ça. Le service civique, ça change la vie d'une façon ou d'une autre. Effectivement, c'est une expérience suffisamment longue pour transformer des trajectoires. Donc on parlait de réorientation. Ça justifie aussi l'investissement public qui est mis dans le service civique. C'est effectivement ça a plus de conséquences sur les parcours des jeunes que un bénévolat qui est également important pour la collectivité. Mais du point de vue des jeunes, de leur vie, de leur parcours de vie, le service civique a un impact fort parce que c'est long et intensif, et on ne le fait pas par hasard. On le fait parce qu'effectivement, on a une hésitation sur ce qu'on veut faire de sa vie. Ça a trait effectivement à des projets de vie, à des choix de vie.
Est-ce que vous pensez, Anne Muxel, ou est-ce que dans vos études ça se voit, est-ce que les jeunes qui font le service civique aujourd'hui, si moi j'avais eu un service civique par exemple, on aurait vu des choses complètement différentes en fait, des centres d'intérêt complètement différents, peut-être une appétence à y aller ou à ne pas y aller qui serait complètement différentes. Est-ce que ce qu'on voit là, et notamment 800 000 jeunes en 15 ans, dit quelque chose d'une génération ?
Oui, d'une génération préoccupée, encore une fois, par un certain nombre de problématiques sociales, sociétales, politiques et plus largement humanitaires. Je crois qu'effectivement, il y a, au fur et à mesure, en tout cas de l'histoire récente, des préoccupations qui se sont imposées, des sensibilités aussi qui se sont imposées dans la jeunesse, qui les a conduit à adopter effectivement des engagements tournés vers une forme aussi d'attention à l'autre, d'altruisme, de souci d'aider les populations, de souci de rendre service, de protéger. Je crois que tout cela effectivement fait partie des valeurs de solidarité, d'entraide, hein, qui sont assez importantes dans les jeunes générations liées aussi aujourd'hui. Et qui correspondent justement à certaines évolutions des problèmes auxquels nos sociétés occidentales notamment sont confrontées.
Et liées aussi aux difficultés de trouver un emploi par ailleurs. Il y a eu d'autres difficultés avant qui n'étaient pas les mêmes et aujourd'hui au fond il y a beaucoup d'appels dans ce sens, c'est pour ça que je viens un peu sur ce terrain-là, il y aura Laura dans un instant. Il y a aussi un côté, de toute façon du boulot je ne vais pas en trouver tout de suite, autant faire quelque chose d'utile.
Oui tout à fait, alors je dirais qu'il y a aussi cette conjonction, effectivement, entre à la fois cette aspiration à des valeurs, au fait de se rendre utile, de défendre effectivement un certain nombre de causes, mais cette conjonction rencontre aussi une période plus compliquée pour les jeunes d'entrer dans la vie sociale, de trouver une place dans la société, de former un projet professionnel qui corresponde à leurs aspirations et surtout d'être rémunérés et d'acquérir une autonomie financières qui leur permettent d'accéder dans de bonnes conditions à la vie adulte. Et c'est vrai que ce côté d'expérience, de transition que permet le service civique de mise finalement une façon de mettre le pied à l'étrier dans cette trajectoire d'entrée dans la vie sociale adulte et d'acquisition de l'autonomie, c'est effectivement une opportunité tout à fait importante dont les jeunes se saisissent.
Bonsoir Laura.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, merci de prendre mon témoignage. En fait, moi, c'est surtout un contrepoint que je voulais apporter, puisqu'en effet, j'entends parler de notion d'engagement, mais moi, en 2013, quand j'ai voulu me rentrer dans le marché du travail, dans le secteur culturel, très précisément dans les musées, j'ai pas trouvé d'emploi et on voit beaucoup, beaucoup d'annonces de services civiques. Donc c'est pour ça que j'ai fait un service civique pour commencer. Et ce qui m'a servi de tremplin, en effet, hein, vous l'avez dit, vous avez parlé de pied à l'étrier. C'est vrai, ça m'a servi, mais j'ai vu beaucoup aussi de musées qui prenaient et jetaient des services civiques et ça reprenait, etc.
Merci beaucoup, Laura. Je voudrais ajouter à Laura la remarque d'Adélaïde sur WhatsApp et qui dit « Le service civique n'est-il pas réservé aux jeunes issus des milieux aisés ?» Parce que le revenu effectivement est très faible, Nadia Bellaoui.
Clairement pas. Le service civique est de ce point de vue très universel, puisque on compte à l'entrée de service civique autant d'étudiants que de demandeurs d'emploi, que l'ensemble des territoires offrent des missions de service civique.
Ce que disent nos auditrices, elles n'ont pas eu l'une comme l'autre l'urgence d'avoir un travail rémunérateur tout de suite qui permettait de payer le loyer, donc elles avaient le luxe de pouvoir faire, de se mettre le pied à l'étrier effectivement et d'y prendre du plaisir, mais de pouvoir faire d'abord un service civique, puisque de toute façon le marché du travail était bouché.
Oui, précisément, en fait, le service civique avec son indemnité, avec l'attention qu'on porte aux jeunes qui candidatent dans les organismes, permet justement de dépasser des situations concrètes compliquées. Ce qui est certain, c'est que si on s'était contenté en 2010 de dire aux jeunes « engagez-vous », là, on aurait eu que des enfants de familles habitués à s'engager pour le faire. Tandis que précisément le statut du service civique, par l'effort budgétaire qui est aussi accompli par l'État, permet justement de dépasser les difficultés sociales et d'ouvrir socialement le service civique. Je rappelle que l'indemnité est cumulable avec la bourse d'étudiants dans les échelons supérieurs. elle est cumulable avec l'allocation adulte handicapé pour permettre aux personnes handicapées de s'engager. Ils peuvent le faire jusqu'à 30 ans et que les organismes d'accueil doivent être à l'écoute des demandes et trouver des solutions. Les collectivités également territoriales peuvent offrir des gratuités dans les transports ou en tout cas des tarifs. Et c'est très important effectivement de considérer que aucun jeune aujourd'hui ne peut se désintéresser des conditions matérielles.
Et ni d'entreprise, parce que c'est aussi ce que disait notre auditrice, un peu facile, disait-elle, en gros, d'avoir des annonces pour service civique tout le temps, ce qui évite d'embaucher quelqu'un. C'est aussi ça qu'elle disait.
Alors, l'agence est là pour vérifier cela, que notre auditrice se rassure. Il n'y a pas de boîte à service civique comme il y a des boîtes à stage. Les services civiques viennent en complémentarité avec les salariés, et d'ailleurs avec les bénévoles dans le monde associatif, on y veille, on multiplie les contrôles pour qu'il n'y ait pas d'abus.
On parle d'engagement dans le téléphone sonne ce soir avec Nadia Bellaoui, qui est la présidente de l'Agence du service civique, avec Anne Muxel, qui est sociologue, et avec vous, Camille, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Mais moi, je voulais juste vous apporter mon témoignage. Je me suis engagé dans une école publique. J'ai été parent délégué, président d'association de parents d'élèves.
Ah, donc vous n'êtes pas jeune, Camille ?
Si, ah, ça dépend quel est le curseur.
Allez-y, pardon.
Donc moi, le bénéfice plaisir a été vite dépassé. J'ai tenu un an, en fait, parce que on est confronté à trop de différences culturelles, sociales, des groupes WhatsApp sans fin où finalement aucune décision peut être prise et je trouve regrettable j'ai pas tenu quoi. J'étais plein de bonnes intentions, je voulais faire beaucoup de choses pour financer des projets scolaires, etc. Et trop compliqué dans une société.
Et donc vous avez jeté l'éponge, Camille, on a entendu Anne Muxel. Qu'est-ce que vous en dites du témoignage de Camille ? Je voulais bien y aller, mais je m'en vais.
Ce témoignage de Camille rappelle que l'engagement, c'est un coût. Hein. C'est un coût pour la personne. Ça demande une grande disponibilité, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande effectivement d'y croire et puis de se heurter bien souvent, malheureusement, aux difficultés pour y arriver, à des interlocuteurs qui ne prennent pas suffisamment en compte les causes que vous cherchez à faire avancer, ou même les solutions les plus pratiques que l'on cherche à faire avancer. Et donc, c'est vrai que s'engager finalement dans une association, dans un syndicat, dans un parti politique, dans un mouvement quel qu'il soit, ça demande un investissement personnel. Et toutes les études d'ailleurs sur le militantisme montrent bien que pour que ce militantisme se réalise et se fasse dans des bonnes conditions, c'est-à-dire ne décourage pas les militants, il faut que le rapport entre le coût et les bénéfices reçus ou attendus, soit équivalent. Autrement, si c'est effectivement disproportionné, ça peut aboutir à ce désengagement dont Camille témoigne.
Entre préoccupation personnelle et résonance collective, il y a effectivement comment on peut trouver sa place au milieu avant de retourner au standard et de faire bouger un petit peu le sujet. Nadia Bellaoui, là-dessus, évidemment, que j'imagine que au service civique aussi, on est confronté à ça. C'est du boulot, c'est de l'investissement. Ça peut être chronophage et effectivement pas très bien payé, mais si on n'y va pas, ça marchera pas.
C'est du boulot, c'est de l'engagement, effectivement. Ouais. C'est aussi à nous d'aménager nos organisations, notre façon de faire pour que les personnes trouvent leur place et pas seulement les professionnels de l'engagement qui sont prêts au sacerdoce et qui sont de moins en moins nombreux. Donc faisons aussi évoluer nos organisations pour qu'elles soient plus accueillantes.
Mais ça aussi, ça parle de la société d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, du temps pour son travail, du temps pour l'engagement, mais aussi du temps pour soi. Ça veut dire qu'il faut être capable de rogner sur chacune des parties et de ne se laisser manger par aucune d'entre elles. Je voudrais qu'on écoute Edouard. Bonsoir Edouard.
Oui, bonsoir madame, bonsoir France Inter.
Qui va nous emmener sur une autre forme d'engagement, et c'est un peu l'éléphant qui est dans la pièce, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui et le contexte dans lequel on vit. On vous écoute Edouard.
Alors oui, moi, après le début de la guerre en Ukraine en 2022, ça a fait un peu un électrochoc pour moi. Et donc j'ai décidé de m'engager dans la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Et donc cela fait plus de 2 ans que je suis maintenant engagé. Je suis militaire du rang et donc j'ai eu l'occasion de participer à des missions sentinelles. Et régulièrement, je me rends à mon régiment pour participer à des formations. Et tous les jours, je m'entraîne physiquement et mentalement pour rester prêt si jamais en cas de conflagration militaire, ce que je n'espère pas. Mmh.
Il faut être prêt. Edouard, ce que je trouve intéressant, c'est que si vous m'aviez dit « je l'ai fait hier », j'aurais entendu le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'en 2022, vous passiez pour un extraterrestre auprès de votre entourage, en fait, ou pas ?
Oui et non. En fait, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a un peu fait un électrochoc. Que je pense dire que ça ne date qu'hier serait un peu malvenu. Mais un peu oui, parce que je ne viens pas d'une famille de militaires et même avant la guerre en Ukraine, je n'étais pas plus intéressé que ça par la chose armée.
Mmh. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais aussi qu'on aille dans cette direction-là. Anne Muxel, vous qui avez travaillé sur les jeunes et la guerre, moi quand j'ai lu votre étude qui date de l'année dernière, donc c'était un an après la guerre en Ukraine, ce qui est fascinant, c'est que précisément cette génération-là, cette jeune génération-là, qui peut autant aller faire son service civique effectivement dans un EHPAD ou ailleurs, affiche une espèce de regain de patriotisme très différent de la génération d'avant.
Oui,
qui était presque antimilitariste en fait dans les précédents, qui l'est plus aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que d'abord l'institution militaire a aujourd'hui une appréciation très positive dans les jeunes générations. Il y a beaucoup plus de proximité d'ailleurs avec l'univers militaire qu'il n'y en avait dans les générations précédentes, ne serait-ce qu'avec les fictions, les jeux vidéo, les séries télévisées, les films de guerre. Effectivement, ça a d'une certaine façon rendu la culture militaire, l'univers militaire plus familière à des jeunes qui n'avaient pas connu finalement eux-mêmes des conflits armés.
Et jamais, mais culture militaire et patriotisme, c'est des choses qui sont très différentes quand même.
Oui, mais alors donc du coup sur cette base-là, et pour recroiser avec ce que nous avons dit dans la première partie de l'émission, c'est vrai que l'engagement qui s'exprime chez les jeunes aujourd'hui, il va jusqu'à l'adhésion à un engagement militaire, une disposition qu'ils peuvent avoir en cas de crise majeure.
Avec un haut pourcentage qui est toujours très étonnant.
Il y a 60% à peu près des jeunes aujourd'hui en France qui considèrent qu'ils s'engageraient militairement s'il fallait défendre leur pays.
Ce qui est un chiffre très très haut. Alors après, il y a le moment de le faire qui est autre chose. Hein. C'est aussi ce que vous dites. D'ailleurs, il peut y avoir... Mais enfin, quand même, c'est intéressant. Vous vouliez ajouter quelque chose, Anilia Belaoui ?
Mais les jeunes que je croise, ils sont vraiment préoccupés par la manière dont ils pourraient réagir face à une crise majeure. Ouais. Alors, les crises auxquelles ils pensent plus spontanément sont les crises environnementales, écologiques. Ouais, ouais. Encore Mayotte récemment, où la Réunion, évidemment, frappe l'imaginaire. Mais ils ont aussi vécu la crise sanitaire du Covid. Et je crois que des cyberattaques, des manifestations nouvelles de crise, ce sont des préoccupations assez quotidiennes chez les jeunes, d'ailleurs. Si on constate l'éco-anxiété chez eux, et qui est bien supérieure à celle qui nous frappe nous, c'est bien qu'ils sont conscients de ces enjeux-là. Et nous, on considère, à l'Agence du Service Civique, qu'une partie de la question qui nous est posée, c'est effectivement de proposer, de préparer nos jeunes, les jeunes qui passent par le service civique, à cette réactivité nécessaire face à des crises qui sont malheureusement aujourd'hui prévisibles.
Exactement, qui peuvent aller donc de ce que vous dites jusqu'à des choses beaucoup plus graves. Je voudrais rapidement qu'on accueille Jérôme Pellistrandi. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Là aussi, du coup, moi, avoir quelqu'un comme vous qui est militaire, moi je voudrais savoir s'engager, évidemment ça ne veut pas forcément dire s'engager immédiatement dans l'armée, mais est-ce que vous seriez favorable à ce que les jeunes prennent contact plus facilement avec les métiers de l'armée, qu'on explique tout simplement comment ça marche, quels peuvent être leurs rôles, qu'il y ait cette espèce de familiarité dans la cité en fait. Est-ce que vous dites oui, ça on en a besoin aujourd'hui?
Oui, on en a besoin. Avec le fait qu'il faut quand même bien regarder que il y a une dimension géographique très importante, c'est-à-dire que vous avez des territoires en France où le contact avec l'institution militaire, elle est assez naturelle. Pourquoi ? Parce que il y a des présences de régiments, de bases aériennes. Mmh. Il y a en quelque sorte un écosystème local qui génère ce type de contact. À l'inverse, vous avez la problématique, on va dire, des grandes métropoles. Je pense à la région parisienne, où la visibilité militaire est quasiment nulle. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est important parce qu'il faut, en permanence, pour dire à l'institution militaire, expliquer, non pas se justifier, mais expliquer ce qu'elle fait au service de notre, de la sécurité de nos concitoyens, expliquer la complexité d'ailleurs des différents métiers et également pourquoi on est militaire, qu'on soit militaire d'active, donc des gens qui vont décider de consacrer leur vie professionnelle à porter l'uniforme, ou d'autres qui sont des volontaires réservistes, comme nous l'avons entendu.
Exactement, et c'est ce que j'allais vous dire, Jérôme Pellistrandi, expliquer aux gens c'est quoi la réserve, en fait, tout simplement, savoir ce qu'on y fait, à quoi ça sert. Encore une fois, il faut vraiment s'enlever des idées reçues. Quand on est dans la réserve, on ne vient pas vous chercher pour courir au front dans un autre pays, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien aussi de leur expliquer, peut-être.
Exactement. En fait, la réserve, c'est quoi ? Ce sont des citoyens qui décident de consacrer une partie de leur temps. Alors, ça peut être sur leur loisir, voire sur leur temps d'activité professionnelle. Ça dépend des entreprises. Et qui vont participer à la sécurité de notre pays. Je vais prendre des cas très concrets. Vous avez, par exemple, la gendarmerie. Ben, l'été, il y a beaucoup de gendarmes réservistes, par exemple, pour assurer la sécurité du Tour de France. Mmh. Vous avez dans les sémaphores le long du littoral des marins réservistes qui vont consacrer qui 15 jours, l'autre 30 jours pour assurer la sécurité de nos approches maritimes. Ça, c'est un élément qu'il faut bien prendre en compte et il n'est pas question d'envoyer des réservistes faire des opérations comme on l'a connu au Sahel, mais c'est un acte citoyen de participation à la vie de la cité.
J'ai une dernière question rapide, Monsieur Pellistrandi. Regardez nos voisins comme la Suisse, par exemple, qui, eux, pays neutres, ont une réserve qui vient régulièrement se remettre à niveau, pour tout dire. On est en train de le voir dans un certain nombre de pays pour les raisons géopolitiques d'aujourd'hui, puisqu'ils sont limitrophes soit de l'Ukraine, soit de la Russie. Mais est-ce qu'on se dit que ça, c'est un intermédiaire, sans avoir à revenir au service militaire que tous les pays ou presque ont abandonné aujourd'hui ? Se dire qu'il y a un rendez-vous précis et régulier, ça vous semble être quelque chose qu'il faudrait mettre en place ou pas ?
Oui, alors il faut bien comprendre qu'il n'est pas question de revenir au service militaire obligatoire tel qu'on l'a connu. D'abord, pour une question très simple, c'est qu'il faudrait incorporer chaque année une tranche d'âge, c'est 800 000 jeunes, garçons et filles, c'est un point important. Par contre, augmenter nos réserves, donc ça veut dire informer, aller sur le terrain au contact de la jeunesse, mais ça peut être aussi des gens qui sont installés sur le plan professionnel, parce que nous avons besoin d'eux, et c'est un acte citoyen de responsabilité. On participe à la sécurité donc de notre pays, et sous cette forme-là, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec un service militaire obligatoire tel que nous l'avons connu jusqu'à la fin des années 1990.
Je vous remercie beaucoup de votre petit passage chez nous, Jérôme Pellistrandi. J'ai l'impression, en vous lisant, Anne Muxel, en lisant votre étude, en tout cas, que on n'est pas très hostile à ça, en fait, voire pas du tout à ce genre d'initiative, à ce genre de choses, dans la jeunesse et même au-delà d'ailleurs.
Ah oui, tout à fait. Et ce qui est assez nouveau, récent quand même, et qui rend compte d'ailleurs ce que l'on a pu mesurer très récemment dans la population française, c'est que l'on souhaite le retour d'un service militaire obligatoire, alors sous d'autres formes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, sans doute, les militaires eux-mêmes n'ont pas les moyens finalement d'assumer un service militaire obligatoire, mais sous d'autres formes, comme on vient de le voir.
Et droite et gauche. J'ai lu avec intérêt dans votre étude que la séparation politique est beaucoup moins violente que ce qu'on pourrait imaginer.
Oui, tout à fait. Droite et gauche, mais aussi garçons et filles. Même s'il y a toujours un écart, mais les filles aussi, dans une proportion significative, sont aussi pour le retour de ce service militaire obligatoire.
Allez, engagez-vous, qui disait, comme on dit dans Astérix. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci vraiment pour vos nombreuses questions.